Aujourd'hui donc, je vous propose de parler du croyant dans la ville. Il est souvent question de ville dans la Bible. Depuis le début jusqu'à la fin, puisqu'en effet l'Apocalypse se termine avec l'apparition de la Jérusalem céleste, et donc le royaume de Dieu est présenté comme une ville qui descend du ciel. Et en même temps, au début de la Bible, il y a une histoire assez problématique avec une ville. Il s'agit du récit de la tour de Babel. Ce récit est mal intitulé, parce que on parle de la tour de Babel. On pense donc qu'il est question d'une affaire de tour, alors que s'il y a une tour dans le récit, il y a également et peut-être surtout une ville. Et d'ailleurs, ce récit est mal connu. En effet, tout le monde pense connaître ce récit de la tour de Babel. Et moi-même, il y a quelques années, je pensais que l'histoire était la suivante. C'était l'orgueil fou d'une grande réalisation humaine, d'un peuple qui veut construire quelque chose qui aille jusqu'au ciel, c'est-à-dire jusqu'à Dieu, et que leur projet était tellement insensé et démesuré que finalement, la tour s'est écroulée sur ceux qui la construisaient. Eh bien, si nous relisons le récit, nous voyons qu'il n'en est pas du tout comme cela. Il n'y a pas de tour qui s'écroule, et il y a Dieu qui empêche la réalisation du projet des hommes. Et si on lit bien le récit, on voit même que Dieu n'empêche pas du tout la réalisation de la tour, mais de la ville. C'est pourquoi je pense qu'il s'agit effectivement d'une question de ville. Et on devrait intituler ce récit « L'histoire de la ville de Babel » plus que la tour qui est au second plan. Voici donc ce récit. En Genèse 11, « Toute la terre parlait un même langage, avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de mortier. Et ils dirent encore, « Bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet soit au ciel. Faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voilà, un seul peuple, et ils parlent tous un même langage. » Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y a plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. L'Éternel les dissémina loin de là sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dissémina sur la surface de la terre. Ce récit de la tour de Babel, bien que extrêmement connu de tout le monde, pose de graves questions. La principale, c'est de savoir pourquoi Dieu s'est opposé à ce projet. En effet, quand on lit le passage, on a l'impression que Dieu a une sorte de jalousie et que finalement, il va profiter lâchement de sa puissance pour limiter celle des hommes, comme si Dieu se sentait en quelque sorte menacé par la puissance des hommes et il dit « C'est terrible !» Ils s'entendent si bien que rien ne pourra s'opposer à ce qu'ils ont projeté de faire. Sous-entendu, ils vont pouvoir se passer de moi. Il faut que je les bride, en quelque sorte, pour mieux les tenir. Avouez que cette image de Dieu semble quelque peu problématique. Alors, en théologie classique, on trouve des solutions à cela, comme à toutes les questions théologiques, bien évidemment. Et la première interprétation, la plus évidente, la plus classique, c'est de dire qu'en fait, il y a là, dans ce texte, une critique de la manière avec laquelle les hommes ont voulu construire la ville. C'est-à-dire que ce que l'on critique, c'est l'état d'esprit et le projet même de cette communauté de Babel. Et donc de dire que Dieu s'oppose au projet des hommes, non pas par jalousie, mais parce qu'il était mauvais et même dangereux pour eux, en quelque sorte. Il y a de nombreux éléments dans le texte qui vont dans ce sens. Au début, l'on nous dit par exemple que ces hommes s'éloignent de l'Orient. Or, vous le savez, l'Orient, c'est l'Est, c'est la région de la lumière. Donc, des gens qui quittent l'Orient pour aller ailleurs, symboliquement, pour la Bible, ça n'est pas bon. C'est des gens qui s'éloignent de la source même de la lumière pour aller vers l'ombre. Et justement, on nous dit qu'ils vont s'installer dans la vallée de Shinéar. Or, une vallée, c'est le contraire d'une montagne. Une montagne, c'est là où Dieu parle. La vallée, c'est la vallée obscure du psaume 23. Et cette vallée, dont le mot littéralement dans l'hébreu dit une faille, une cassure, des gens qui quittent la lumière pour aller s'enfoncer dans une faille et dans une cassure obscure, c'est extrêmement mauvais comme projet. Et c'est d'autant plus grave que tous sont d'accord. Il n'y en a pas un pour s'opposer à ce projet. Donc la situation est encore plus grave qu'à Sodome, où il y avait quand même au moins 10 justes, au moins peut-être même un juste. Là, il n'y en a pas un. On a l'habitude aussi dans ce texte d'y voir le mauvais usage de la technique. Là aussi, la leçon est un peu moralisante, un peu évidente, un peu simple, mais néanmoins pas fausse, et elle peut également nous interpeller. Je la cite donc, même si je le fais rapidement. On voit dans ce texte le peuple qui invente les briques et qui invente le bitume. C'était astucieux. Dans un pays où il n'y avait pas de matériaux de construction, pas de mortier, ils inventent des briques pour remplacer les pierres et du bitume pour remplacer le mortier. Donc oui, c'est l'image de la découverte scientifique, de la technologie, et tout cela est très bien, mais pour quel usage ? Eh bien, l'erreur, là aussi, elle est en général montrée comme étant qu'ils mettent ces inventions non pas au service du peuple pour construire, je ne sais pas moi, des hôpitaux, des maisons pour les pauvres, des choses comme ça, mais non plus pour au service de Dieu, ils auraient pu construire un temple, mais au service de leur propre gloire, pour construire une tour qui monte jusqu'à Dieu, c'est-à-dire pour se faire valoir. Et voilà, nous sommes là effectivement dans le cœur même de l'explication traditionnelle de la tour de Babel. Ce que voulaient ces gens, c'était une tour qui monte jusqu'à Dieu. Image du péché originel, l'orgueil fou de croire que par la technique et par sa propre entreprise, on va pouvoir aller jusqu'à Dieu, c'est-à-dire obtenir une sorte de toute-puissance, que l'on pourra tout gérer, tout régler, tout faire, être les maîtres du monde, en quelque sorte, et que l'on pourra ainsi même se passer de lui et être aussi grand que lui. Bon, c'est effectivement une tentation très moderne, mais qui est effectivement impossible et donc dangereuse. Donc, heureusement, Dieu les en a empêchés. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'ils construisent une tour et une ville. Alors, cette tour, bon, on l'a largement critiquée et je n'y reviendrai pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est la question de la ville, dont on ne parle à peu près jamais. Quel est le problème pour la ville ? Pour la tour, je vois à peu près, mais pour la ville, quel est le problème ? Sachant d'autant plus, comme je vous l'ai dit également, que le texte dit que Dieu arrête la construction de la ville, et qu'on ne parle plus de la tour. Donc il semble bien que la ville soit bien plus importante que la tour. Eh bien, je crois en effet que le centre du texte n'est pas sur la tour. Il est plus sur la ville. Parce que la ville, et surtout la ville qu'il voulait construire, symbolise et représente la perte de l'individualité. Ils mettent toutes leurs forces pour la collectivité et ils oublient l'individu. Et ça, c'est très grave, très embêtant. Je crois que si les protestants s'entendent si bien avec les juifs, c'est que les juifs ont justement, depuis des milliers d'années, le sentiment de la responsabilité personnelle du croyant. Le juif ne peut jamais, je dirais, se cacher sous une institution, sous une église, sous une communauté. Le juif est responsable de lui-même devant Dieu. Et les protestants sont un peu comme ça aussi. Et donc là, la grave erreur, c'est bien cela, c'est l'oubli de l'individu. On nous dit d'ailleurs, au début du texte, qu'ils avaient tous le même langage. Et le texte, littéralement, va même plus loin. Il dit « Ils avaient tous les mêmes mots ». Ils avaient tous les mêmes mots. Alors, ce n'est pas le fait qu'ils parlaient la même langue. Ça, c'est bien commode pour faire une ville. Mais c'est qu'ils disaient tous la même chose. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Un seul discours, une seule pensée pour tous. C'est le risque, la menace, dirais-je, de la pensée unique. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et c'est bien cela que Dieu veut briser. Alors, quel est le danger? Le danger, il est exprimé dans le texte lui-même, où Dieu dit « Ils ont tous les mêmes mots, les mêmes paroles, les mêmes phrases. Il n'y a plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. » Je ne pense pas que Dieu imagine qu'il puisse ne plus y avoir d'obstacle à ce qu'il réaliserait. Il est évident que dans toute réalisation humaine, il y a des obstacles. Et j'imagine aussi que vous tous, et nous tous, nous passons notre vie à essayer de dépasser et de franchir les obstacles. Que ce soit dans une vie professionnelle, ça n'est que cela. Dans une vie personnelle, dans une vie relationnelle, dans une vie familiale, dans l'éducation des enfants, la vie n'est que d'essayer de dépasser des obstacles, et il y a toujours des obstacles qui nous résistent. Donc Dieu sait bien qu'il y aura toujours des obstacles. Mais ce que dit la phrase, c'est « il n'y aura plus d'obstacles à ce qu'il décide ». Et là, c'est plus grave. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord, qui va s'opposer à la moindre idée farfelue, baroque qu'ils pourraient avoir? Personne ne va s'opposer à leur projet et non pas à la réalisation de leur projet. Personne ne va s'opposer à leur projet. S'ils ont tous les mêmes phrases, les mêmes idées, les mêmes mots, il n'y aura personne pour proposer une autre idée, personne pour critiquer, personne pour remettre en cause. Et ça, c'est grave. Parce que l'unanimité est la chose la plus dangereuse qui soit. On le trouve aussi dans le judaïsme par un petit détail des lois du Talmud qui me plaît énormément. C'est qu'il y avait dans le judaïsme le Sanhédrin, qui était le tribunal juif, en fait, qui décide des peines infligées à ceux qui font des mauvaises actions. Dans le cas du vote pour la peine de mort, il y a un cas où la décision du Sanhédrin est considérée comme nulle, c'est s'il y a unanimité dans le vote. Ça, c'est extraordinaire. Et ils disent, si tout le monde vote la mort de quelqu'un, on annule le vote. Parce que c'est la preuve que soit les jurés ont été soudoyés, soit qu'il y a un aspect qu'on n'a pas vu. Parce que tout coupable peut être vu d'une certaine manière autrement que coupable. Ça veut dire donc qu'on n'a pas suffisamment bien examiné toute chose, et une décision prise à l'unanimité est une décision nulle. Ça, c'est extraordinaire. Dieu, je crois, veut qu'il y ait des opinions différentes. Il y a dans ce texte une critique très très forte et que je trouve merveilleuse de la pensée unique, du politiquement correct, de, je dirais, de l'écuménisme unanimiste ou du nivellement de toutes les communautés humaines. Avant l'histoire de Babel, dans la Bible, il y a la non moins célèbre histoire du déluge avec Noé. À ce moment-là, l'humanité était tombée dans un autre travers. Ce n'était que disputes et violences. Dieu essaye de régler le problème, bon, d'une manière un peu violente, je le reconnais, mais néanmoins, il y a un problème. Violence, dispute, discorde. Juste après Noé, l'humanité tombe dans un autre travers, qui est le contraire, c'est la pensée unique. Et je pense que justement, il y a là les deux dangers d'une communauté. L'un, c'est l'éclatement, l'autre, c'est l'unanimisme, et dans les deux cas, nous sommes dans quelque chose de mauvais. Autre petite leçon hébraïque, dont je n'aime pas me priver, la notion de peuple. En hébreu, le peuple, ça se dit « âme ». Et « âme », disent les dictionnaires, ça vient de « im », qui veut dire « avec ». Et donc, pour la Bible hébraïque, un peuple, cela veut dire être avec. Cela ne veut pas dire être semblable. Cela ne veut pas dire penser la même chose, avoir les mêmes idées. C'est être avec celui qui est différent. Alors le danger de la pensée unique, eh bien, c'est que toute pensée humaine est nécessairement limitée, et donc à la limite fausse. Et donc, si personne ne discute une idée, on risque de croire qu'elle est absolument vraie, alors que toute idée est fondamentalement discutable. S'il n'y a personne pour discuter une idée, cette idée va prendre la place même de Dieu. Ça va être un absolu au nom duquel on peut juger, on peut condamner, on peut exclure, on peut même faire mourir. Et donc il y a là-dedans un risque d'idolâtrie de l'idée, risque d'idolâtrie de l'intelligence humaine. C'est-à-dire que la réalité est nécessairement dialectique, et puis d'autre part, la réalisation elle-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une autre paire de manches, et si on n'a pas vu tous les aspects d'une question, il y a nécessairement une chute, et la chute, elle, est brutale. Autrement dit, si Dieu arrête le projet de Babel, c'est justement parce que, d'une certaine manière, la tour, après, se serait écroulée sur les gens, nécessairement. Autre petit élément sur la diversité, je reviens à l'histoire de Noé juste avant, où le signe que Dieu donne de sa présence dans le monde, au peuple, c'est l'arc-en-ciel. Là encore, l'arc-en-ciel, cette diversité de couleurs les unes à côté des autres, l'arc-en-ciel qui est ce blanc éparpillé en différentes tonalités, qui est tout sauf l'unité nivelante. Bon, je m'arrête là, toutes ces choses-là sont ce que l'on apprend aux enfants au catéchisme et à l'école biblique, et finalement il y a une grande part de vrai là-dedans, mais nous en sommes, je crois, tous à peu près convaincus et en tout cas habitués à cette lecture. Mais là encore, je vous ai dit tout à l'heure, je n'aime pas les idées univoques. Je viens de condamner à l'instant la pensée unique, l'idée à laquelle tout le monde se rallie. Donc vous êtes tous d'accord que les gens de Babel avaient tort. Vous êtes tous d'accord pour les condamner, pour dire que Dieu a bien fait d'arrêter leur projet. Ça me semble un petit peu suspect. Alors je vais me faire l'avocat de ce peuple de Babel. Et vous montrer, je l'espère, que les choses sont un peu plus compliquées que cela. Et qu'il peut peut-être y avoir, même dans la réalisation d'un projet collectif, quelque chose de positif. Parce qu'en effet, tout le monde est d'accord pour dire que Babel sont des gens coupables. Mais si on lit bien le texte, avec un esprit neuf, en essayant d'enlever ses préjugés, on s'aperçoit que les choses ne sont pas aussi évidentes que cela. Jamais le texte ne dit que Dieu n'est pas content de leur projet. Jamais. Jamais il n'est dit que les humains soient mauvais. Jamais il n'est dit que Dieu les punisse. Et donc on peut très bien faire une lecture positive de l'histoire. Et ce n'est pas d'une manière tordue. Je vais vous le montrer. On peut lire le texte en disant, voilà, on nous montre des hommes qui arrivent dans un grand progrès spirituel. Parce qu'on nous dit qu'ils viennent de l'Orient. Oui, mais là, c'est parce que vous ne connaissez pas l'hébreu. Kedem, ça veut dire l'Orient, mais ça veut dire aussi le passé. Donc voilà des gens qui sortent du passé, extraordinaire. Des gens qui arrivent à se libérer de l'emprise, de leur propre histoire, finalement. Ils viennent de leur histoire pour aller vers une faille. Oui, mais ils font justement une faille dans cette espèce de toute-puissance, de la répétition du même dans l'histoire. Et ils arrivent ainsi peut-être à créer du neuf. Et quel est leur projet? C'est de vivre en paix. Eh bien zut alors, vous n'êtes pas pour ce projet. Le projet de construire une ville où les gens s'entendent bien. Une ville qui soit gouvernée par une tour. Une tour qui ait les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est ça que dit le texte. Construisons une tour qui ait la tête dans le ciel. Mais ça, c'est l'image même de tout bon projet humain. D'avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est-à-dire à la fois cette espèce de réalisme concret qui fait que l'on accepte et que l'on joue avec les règles du monde, et en même temps que l'on ait la tête dans le ciel, c'est-à-dire la tête dans la proximité avec Dieu, la possibilité de penser spirituellement et d'agir concrètement sur ce monde. Ça, c'est le plus beau des projets. C'est l'image même, je dirais, de notre vocation de croyant dans le monde. Et donc, ils ont ce double projet, à la fois de construire une ville et que dans cette ville, il y ait quelque chose qui s'élève à Dieu. Et donc, voyez-vous, ils pensent à tout. Ils pensent aux hommes et à Dieu. Et je dirais que cette réalisation est l'image même du commandement ultime, unique et absolu que nous donne le Christ. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu t'élèveras à lui autant que tu le peux, et tu aimeras ton prochain, tu construiras aussi une ville pour loger tes proches et tes frères. Et puis, après tout, écoutez quand même, c'est bien de dire qu'il ne faut pas d'unanimité, mais les disputes, c'est quand même pénible et fatigant. Les discordes, ça ne crée que du dégât, que de la destruction. Et voilà des gens qui s'entendent, qui veulent réaliser des œuvres, qui les rassemblent comme des frères, une ville qui soit effectivement un lieu d'union, de réunion, simplement gouvernée par cette présence de Dieu. Eh bien moi je dis que Dieu ne peut que s'en réjouir. Et il regarde ça du haut du ciel et il dit, mais ces gens sont formidables. Voilà, ils sont, dit-il, je cite, ils sont un seul peuple. Et Dieu dit, je cite, voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Point d'exclamation. Aux écoles bibliques, on lit ça en disant « Oh, voilà ce qu'ils ont entrepris de faire !» Mais moi, je dis, Dieu est là, il dit « Ah, voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Quelle merveille ! Quelle merveille !» Et Dieu dit « Voilà, rien désormais ne peut s'opposer à ce qu'ils auront décidé de faire. Ils sont tellement bien positionnés dans ce monde que plus rien ne peut s'opposer à eux, il n'y a plus d'obstacle. Ils sont sur un chemin absolu qui les conduit vers la vie éternelle, vers l'amour, vers le royaume. Mais ah, Dieu regrette quand même une chose. Il regrette une chose, c'est qu'ils sont tous ensemble. Et il se dit, c'est dommage après tout. Il ferait mieux d'aller et s'aimer sur toute la terre pour témoigner, pour faire des émules, au lieu de rester tous ensemble au même endroit. Et donc il leur manque qu'une chose, c'est d'obéir à ce commandement de Noé, aller et pulluler sur la terre. Et là, c'est la seule chose qui leur manque. Ils font tout bien, mais ils ne pullulent pas. Ils restent entre eux. Ah. Alors Dieu va les aider à aller plus loin dans leur bonne réalisation. Il descend. Dieu descend pour voir la vie. Ça aussi, il faut le prendre au sérieux. Dieu ne leur demande pas de monter jusqu'à lui, c'est lui qui descend. Ça, c'est la théologie que nous enseignons jour après jour, la théologie du salut par la foi. Dieu n'attend pas qu'ils soient effectivement montés à lui pour les rencontrer. Mais dès qu'ils ont le projet d'aller à lui, Dieu descend. Ce n'est même plus la peine de faire la tour. dès que l'on veut rechercher Dieu, Dieu vient à notre rencontre. Comme le fils prodigue, dès qu'il a décidé de revenir vers le Père le voit de loin et court se jeter dans ses bras. Et alors Dieu va leur donner un don formidable. Ce n'est pas une punition. Il leur donne le don de parler toutes les langues de la terre. En effet, Dieu dit, je cite, « Allons, descendons, et mélangeons leurs lèvres, afin que chacun n'entende plus, je dirais seulement, la langue de son prochain. » Et Dieu dit, « Allons ». Là aussi, ce « allons » me plaît beaucoup. Parce que dans ce « allons », il y a la même formule que celle qui était déjà utilisée par les hommes tout à l'heure pour construire la ville. Ils disent « Allons, bâtissons une ville ». Et ce « allons » est donc repris là par Dieu, qui dit « Eh bien, de même que vous étiez prêts pour faire quelque chose avec moi dans un projet commun, eh bien moi aussi, allons, on continue cette œuvre ». C'est-à-dire que Dieu continue d'aller dans le sens de leur démarche. Et il ne s'agit pas de contrarier la démarche humaine, mais plutôt de prendre en considération cette démarche humaine pour lui permettre d'aller encore un peu plus loin. Justement parce que le peuple n'est pas resté dans une démarche simplement humaine, mais que intégrant Dieu, avec Dieu, ils pourront faire une étape de plus. Et il y a là une nouvelle construction, quelque chose de neuf qui va se passer. Dieu va aller avec l'homme pour l'aider à aller plus loin. Et ensuite, Dieu dit « mélangeons leurs lèvres ». Alors, ce « mélangeons » me plaît beaucoup. « Nivla », qui a donné le mot « Babel », dit le texte. « Nivla ». Ce mot vient du verbe « balal ». Et « balal », ça veut dire « mélanger », c'est vrai, mais c'est un terme de boulangerie. Ça veut dire « mélanger » comme normalement on mélange le levain à la pâte, ou comme on mélange l'huile à la farine, pour obtenir quelque chose. Et donc il ne s'agit pas de mettre le bazar, de brouiller, de tout éparpiller, de tout éclater, de tout détruire, mais il s'agit d'ajouter une chose extérieure à une autre pour la transformer et pour la rendre positive. Comme on mélange le levain à la pâte, comme on mélange l'huile avec la farine pour faire du pain. Et donc Dieu dit, comme le boulanger, voilà, j'ai là quelque chose d'extraordinaire. Je vais, comme le boulanger, mélanger une dimension autre, peut-être comme le levain dans la pâte, image bien connue de l'Évangile. Ou alors qu'il considère que ce peuple-là dans cette ville est lui comme le levain fondamental du monde. Et il se dit, eh bien ce levain qui est là, ce petit nucléus de vie que j'ai là sous la main, je vais le disperser dans le monde comme je disperse le levain dans la pâte pour que le monde entier bénéficie de son expérience et de son témoignage. Effectivement, le terme d'ailleurs, même dans nos traductions, apparaît. Afin qu'ils essaiment, mais l'essaimage, ce n'est pas, je dirais, quelque chose de négatif, ce n'est pas du gâchis ou de la perte. L'essaimage, c'est je prends une graine précieuse et je la mets dans la terre pour que cette graine pousse et grandisse. C'est pourquoi, effectivement, nous avons cette idée de dire « Jésus, vous êtes le sel de la terre ». Et une ville, justement, ne doit pas rester renfermée comme ça. Une ville sur une montagne, elle doit briller. Autrement dit, il y avait une seule chose qui manquait à ces gens de Babel, c'était l'ouverture sur le monde. Mais c'était une bonne ville. Alors, quelle est la bonne version? La première, la mauvaise, ces gens de Babel, finalement, étaient-ils bons ou pas bons? C'est difficile à dire. Je crois qu'il n'y a pas à choisir pour l'un et contre l'autre. Et personnellement, j'aime bien ces deux lectures et je crois qu'elles ne s'annulent pas l'une l'autre. Je crois même que l'ambiguïté du texte est voulue par le texte. Elle est d'autant voulue que elle est assez unique, cette possibilité d'ambiguïté du texte. On ne peut pas jouer à ça dans les autres passages de la Genèse. Je dirais, pour Caïn, il est clairement condamné, Caïn. Le péché originel, c'est clairement condamné. Dieu s'y oppose. Là, rien n'est clair. Et donc je crois que cela nous montre que toute œuvre humaine est ambiguë. Et réaliser quelque chose, même avec des bons sentiments, peut être la meilleure ou la pire des choses. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on le fait. Si c'est une réalisation d'orgueil pour se mettre à la place de Dieu, alors oui, c'est mauvais. Si le désir, c'est que cette œuvre soit liée à Dieu pour le service de tous et pour l'amour fraternel, alors c'est bon. Donc une ville, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais ? En soi, une ville n'est ni bonne ni mauvaise. Une tour n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de la manière avec laquelle on le conçoit. Je crois que la seule exigence de Dieu, c'est de ne pas s'enfermer dans son petit confort d'amour fraternel, de présence de Dieu, mais d'aller témoigner, de se mélanger aux autres et de ne pas rester entre soi. Dans ce texte, on a toujours, vous savez, une autre clé de lecture que je ne vais pas utiliser, mais toujours la mise en scène, la question de l'antinomie entre les nomades et les sédentaires. C'est le problème même de la Bible. Entre les bergers et les cultivateurs, ceux qui sont dans les villes et ceux qui nomadisent dans les déserts avec des troupeaux. C'est le problème de toute la Bible. C'est la lutte entre Caïn et Abel. Caïn, le cultivateur, donc nécessairement sédentaire, et Abel, le berger, nécessairement nomade. C'est le problème du peuple d'Israël, lui qui s'est sédentarisé en Égypte, et on voit bien tous les problèmes qui en ont découlé, parce qu'ils ont été esclaves de cette situation. Et le peuple, ensuite, est devenu nomade dans le désert, mais il n'avait qu'une idée, c'était de se fixer dans la terre promise. Et dès qu'il est dans la terre promise, on lui dit simplement une chose, « N'oublie pas que ton père était un Araméen nomade. » Seule chose à se souvenir. Ou de lui dire, comme en Hébreux 11, 13, que nous avons lu tout à l'heure, tout le peuple s'est souvenu d'une seule chose fondamentale, c'est qu'il est étranger et voyageur sur la terre. Ou encore Jésus qui dit « Le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête ». Et donc, le peuple à la fois devient sédentaire, mais reste avec un esprit nomade. Finalement, je crois que c'est ça le secret du peuple juif. Et donc, il n'y a pas à être contre la ville, contre la communauté, contre l'église, contre la paroisse, tant que cela ne devient pas un repli identitaire. Tant que la ville devient une réalité ouverte, ou la paroisse une réalité ouverte, ou même la famille peut-être, un lieu où l'on peut rencontrer l'autre. Et tant que la ville, ou la communauté, ou la paroisse, ou ce que vous voulez, ne devient pas ce qui nous définit, tant que ça devient simplement un lieu d'où l'on peut sortir pour aller vers le monde, un lieu où l'on peut accueillir le monde. Et l'antidote absolu à toute idolâtrisation dévastatrice, c'est bien de relativiser les choses, de ne rien prendre trop au sérieux, je dirais. Bon, notre Église, elle est comme elle est, ce n'est pas le royaume de Dieu, elle n'est pas parfaite, et c'est très bien comme ça. Notre ville n'est pas parfaite et c'est très bien comme ça. Notre politique, notre pays, rien n'est parfait et c'est très bien comme ça. Parce qu'il n'y a aucune politique parfaite, ni de droite, ni de gauche, aucune ville parfaite. Tout cela est toujours, je dirais, dans l'ambiguïté et dans l'imperfection, dans la dialectique. Toute entreprise humaine peut être bonne tant qu'elle n'est pas prise trop au sérieux. Et tant qu'il n'y a pas la prétention dans cette entreprise humaine de remplacer le royaume de Dieu. La Jérusalem céleste, le but même de notre vie, est présenté comme une ville. Mais cette ville, elle a deux caractéristiques. D'une part, elle descend du ciel. Et donc, ce n'est pas une ville qui sort de la terre. La Jérusalem céleste, elle vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Première chose. Deuxième chose, cette Jérusalem céleste, elle a 12 portes. Et donc, d'accord pour une ville, mais une ville avec des portes. Et avec plein de portes. 12 portes. 3 de chaque côté. C'est-à-dire des ouvertures. Et Jésus lui-même, Il parle d'une affaire de bergerie, tout ça, très bien. Mais Jésus lui-même ne se compare jamais à la bergerie, il se compare à la porte. Et il dit par moi, les brebis entrent et elles sortent. Et donc la ville peut être la meilleure des choses tant qu'elle n'a pas la prétention à remplacer Dieu. Et Dieu là-dedans, il n'est pas celui qui construit la ville humaine, il est la porte qui donne de l'ouverture pour entrer et pour sortir de toutes ces communautés, de toutes ces organisations humaines que nous créons. Dieu est justement l'ouverture qui permet d'éviter que ces projets tournent en rond et se retombent sur eux-mêmes. Amen.